fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Maë Burlin.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Il fait quoi ? Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Ce mois-ci, nous nous retrouvons pour parler éducation physique et sportive, une discipline qui occupe une place particulière dans le cadre scolaire. Nous aurons avec nous tout à l'heure pour en discuter deux invités qui ont travaillé sur la question, voire même ont travaillé en tant qu'enseignants de PS, Claire Ravez et Laurent Dastugue. Mais avant de les retrouver, c'est l'heure de la chronique Un mot, un chercheur, un mot, une chercheuse en l'occurrence, le premier numéro de cette saison, avec en invité Marie Beretti, enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation à la Faculté de sciences humaines et sociales de Saint-Étienne. Notre chroniqueuse Héloïse Marguerite lui a tendu son micro pour parler du mot autorité.
Autorité. Pouvoir légalement conféré à une personne, à un groupe humain, de régir l'ensemble ou une partie du corps social, de régler les affaires publiques. Exemple, l'autorité de l'État, du roi.
Donc effectivement, l'État est une autorité, hein, l'État fait autorité, c'est-à-dire qu'elle pose un cadre général qui contraint et les enseignants et les élèves finalement. Mais en même temps, l'institution, l'État, hein, délègue une autorité statutaire à l'enseignant. Donc l'enseignant aussi a autorité et fait autorité, mais sur un plan différent, puisque l'autorité de l'enseignant, elle s'exerce en contexte, en situation, et surtout elle s'exerce en relation avec des autres, et en particulier avec les élèves.
Autorité. Pouvoir d'agir sur autrui. L'autorité de l'homme sur l'homme.
Alors, plutôt que de pouvoir d'agir, moi je parlerais plutôt d'influence en matière d'autorité, plutôt que d'action directe sur les élèves. Mais effectivement, l'autorité de l'enseignant, c'est ce qui produit un effet, en tout cas ce qui vise à produire un effet sur les comportements, c'est-à-dire à obtenir l'obéissance, voire une classe studieuse. Or, cette influence, elle n'est pas directe parce qu'elle n'est pas coercitive, en fait. Ça veut dire qu'en réalité, l'autorité peut produire un effet, mais sur la reconnaissance des élèves que cette influence, elle leur est bénéfique. Et si je suis un petit peu plus précise, je dirais que l'autorité, ce qu'elle vise, c'est une obéissance, mais une obéissance librement consentie par les élèves. Parce que la désobéissance leur est toujours possible. Sinon, si la désobéissance n'est plus possible, alors ça veut dire qu'on n'est pas dans le cadre d'une relation d'autorité.
Autorité, pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui.
Alors, je vais repartir de la relation pédagogique et de la relation éducative. La relation pédagogique, c'est lorsque l'enseignant fait des choix pour et à la place de l'élève. Donc, d'une certaine manière, ça peut apparaître effectivement comme une relation de commandement-obéissance. C'est parce que c'est une relation qui est complètement asymétrique, donc qui contient en elle-même une relation d'autorité. Mais le terme de commandement est un peu inadéquat parce que en même temps, c'est une relation symétrique, c'est-à-dire que c'est une relation qui reconnaît l'autre, hein, l'élève, comme un sujet et comme un égal en droit, un égal en dignité et un égal en respect. Donc plutôt qu'une relation de commandement-obéissance, je crois qu'on peut parler d'une relation d'autorité-obéissance au sens d'autorité éducative, c'est-à-dire au sens que lui donne Bruno Robe. Ce qui est radicalement différent d'une relation de pouvoir-soumission ou de commandement-soumission.
Autorité. Du verbe latin augere, fonder, accroître, augmenter.
Dans ce contexte-là, en fait, c'est l'éducation qui fait grandir les élèves. Et l'autorité, elle en est un moyen. Dans le cadre scolaire ou dans le cadre familial même, l'autorité, finalement, n'existe pas en dehors de l'éducation. Faire grandir l'enfant, ça veut dire lui permettre d'accéder à l'autonomie, hein, c'est-à-dire à la capacité à se diriger lui-même. Et donc, à se passer de son éducateur ou de ses éducateurs. L'éducateur, finalement, c'est celui qui lui pose un cadre, qui lui pose des repères, qui lui pose des limites contenantes, qui le met au travail aussi, hein, dans le cadre de la classe. Donc, l'autorité, elle fait grandir parce que l'éducation fait grandir. Si je le dis autrement, je pourrais dire que l'autorité, elle est au service de l'éducation et de l'éduqué, dans le sens où elle répond à ses besoins, mais elle n'est pas au service de l'éducateur. Et il me semble que c'est à cette condition, effectivement, qu'on peut dire que l'autorité fait grandir.
Merci à Marie Beretti pour cet éclairage sur le concept d'autorité et Louise Marguerite pour la préparation de cette chronique. Et qu'en est-il de l'autorité dans les cours d'EPS ? Alors on va peut-être pouvoir en discuter puisqu'il s'agit de la thématique qui nous rassemble pour ce numéro d'IFÉ quoi, non pas l'autorité spécifiquement, mais l'éducation physique et sportive en tant que discipline scolaire. Nous recevons sur notre plateau pour échanger sur la question deux invités. Claire Ravez, vous êtes chargée de médiation scientifique au sein de l'équipe veille et analyse de l'Institut français de l'éducation, UNS de Lyon. Et vous publiez ce mois-ci un numéro d'une édu-revue, une synthèse approfondie sur l'éducation physique et sportive intitulée « L'EPS de ses buts à ses terrains ». Très joli titre, bonjour.
Bonjour Maë.
Laurent Dastug, vous nous rejoignez également sur ce plateau d'IFÉ quoi aujourd'hui. Vous êtes maître de conférence au laboratoire ACTE, activité, connaissance, transmission et éducation à l'Université Clermont-Auvergne, mais aussi formateur à l'INSPE. Bonjour.
Bonjour et merci pour cette invitation.
Merci beaucoup à tous les deux aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors, quelles sont les différentes visées de l'éducation physique et sportive dans le cadre scolaire français, des politiques publiques du sport à celles de la santé ? Claire Ravez, c'est le sujet sur lequel vous avez choisi de travailler pour cette édu-revue. Peut-être pour commencer, qu'est-ce qui vous a inspiré ce sujet ? C'est quoi le point de départ de ce dossier ?
Oui, bah alors un petit peu comme pour tous les édu-revues, et donc avant ce qu'on appelait des dossiers de veille, c'est l'idée qu'on essaye de croiser une actualité scientifique et une actualité institutionnelle avec aussi ce qu'on a déjà un petit peu en bagage dans l'équipe depuis plus de 20 ans. Donc en termes d'actualité professionnelle, institutionnelle et plus largement sociale et médiatique, bien entendu, il y a eu un petit peu le catalyseur, la cristallisation autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Donc l'idée, c'était un peu au départ de publier un travail peut-être en amont, et puis finalement ça a été en aval, donc dans la dynamique aussi d'avoir un petit peu des billes pour penser l'héritage aussi social, immatériel de ces jeux. Et dans un ordre d'idées un petit peu différent, cette fois c'est aussi lié à l'impact de la Covid-19 et puis des épisodes aussi de confinement, à la fois sur la pratique physique des élèves, puisque ils ont été... Ça a été beaucoup plus difficile pour les enseignants d'organiser des activités, on va dire, habituelles, de contact, tout simplement. Donc l'idée de la distanciation physique, ça a été une discipline qui a été fortement aussi impactée par cela. Et puis du coup, c'est aussi là que cet enjeu peut-être sanitaire, en tout cas à titre peut-être plus personnel, est revenu pour moi en avant. Et avec ça en tête, c'est là qu'on se dit qu'est-ce que, en termes de recherche, on peut avoir un petit peu en stock pour nourrir la réflexion de nos lecteurs, de nos lectrices sur cette thématique. Et là, les recherches en STAPS, donc en sciences et techniques des activités physiques et sportives, sont aussi très, très riches. C'est un milieu scientifique très dynamique avec des revues. Et un petit peu mon point de départ, ça a été les 40 ans de la revue STAPS. Et cette occasion, ils ont publié un numéro un petit peu exceptionnel qui faisait le point sur la discipline, et ça m'a donné un petit peu des billes là, pour aussi un peu découvrir, m'orienter dans cet univers-là. Et en me disant qu'il y avait de l'actualité au niveau de la communauté scientifique qui faisait un peu le point aussi sur son histoire, sur ses trajectoires, sur ses objets de travail, et puis une demande un petit peu, ou en tout cas une actualité, politique sociale, et peut-être terminer sur l'actualité institutionnelle, parce que avec ces deux convergences Covid et puis JO, pas mal de dispositifs depuis 2-3 ans ont interrogé un petit peu la place, la fonction, le rôle de l'EPS à l'école. Les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire ou un dispositif visant
On va pouvoir revenir sur toutes ces questions-là, mais justement vous parliez un peu de l'histoire de cette discipline. Quand vous commencez cette édu-revue, vous commencez en posant quelques jalons historiques, vous remontez jusqu'à 1969, l'année de l'introduction de la gymnastique dans les écoles normales d'instituteurs. Vous mentionnez aussi les Jeux Olympiques de Rome en 60. Comme un tournant, l'éducation physique et sportive en tant que discipline scolaire ne va pas forcément de soi, c'est toute la question qui nous rassemble. Est-ce que vous pouvez nous donner là quelques repères historiques de l'introduction de l'EPS à l'école dans l'enseignement primaire, secondaire ?
Oui, alors 1869, on est dans cette seconde moitié du 19e siècle avec déjà une institutionnalisation dans l'enseignement secondaire, puis dans l'enseignement primaire avec les lois Ferry. Donc il y a déjà un socle qui est présent à la fin du 19e siècle. Et puis, peut-être un accélérateur ou un changement de perspective dans les années 60 avec l'idée de cette sportivisation de cet enseignement sur lequel on pourra revenir. Et puis, en lien avec ça aussi, dans les années 70-80, l'émergence d'une filière de formation universitaire pour former justement les enseignants, et Laurent en parlera aussi sûrement. Et puis, l'EPS en tant que discipline scolaire, bien sûr, elle est articulée, elle est rattrapée, elle est parfois en avance sur les différentes dynamiques propres au système scolaire. Et c'est ça, finalement, qu'on vit peut-être à l'heure actuelle, hein, cette accélération. Voilà, je parlais de dispositifs, peut-être de réformes, de changements de programme. Tout ça, voilà, à l'heure actuelle, est aussi riche, dynamique et parfois difficile à suivre en EPS.
Alors, je vous propose qu'on écoute un très court extrait de film, La vie scolaire, pour être précis. Alors, accrochez vos ceintures.
Oui, super, super, voilà. Oh putain, le tac, pas de tac, pas de tac, le con de ta mère, pas de tac, putain. Allez, on se relève, y'a rien, il s'immune, Neymar, relève-toi.
Eh, sur la tête de ma mère, voilà, tu es sérieux, en plus, t'es bien moche.
Elle a rebondi, Mskena. Voilà. On va t'échauffer, tu vas rentrer. Aruna, ta grand-mère, Aruna.
Monsieur, vous parlez trop mal.
Je parle pas mal, c'est le champ lexical du sport. Je vous prépare au haut niveau. Tu vas rentrer, oui, tu vas aller bloquer. Et t'écoutes tes consignes, s'il te plaît.
Alors là, on a la représentation caricaturale du prof de PS. Je m'excuse pour cet extrait, qui finalement ressemblerait pas vraiment à un prof et qui justement placerait la pratique sportive, donc la compétition, en objectif premier. Laurent Dastuc, vous avez été enseignant d'éducation physique et sportive dans le secondaire. Vous êtes maintenant chercheur, mais aussi formateur à l'INSPE. Ça vous fait réagir cet extrait ?
Alors oui, très, très, très bel exemple, hein. il est bien choisi. C'est vrai qu'il peut y avoir, dans le langage des élèves, dans le langage de parents ou d'enseignants, une petite confusion entre sport et éducation physique et sportive. Donc historiquement, comme l'expliquait Claire, dans les années 60, il y a eu un phénomène de sportivisation de l'éducation physique et sportive. Donc il y a eu différents moments, il y a eu l'introduction en 1959 de l'épreuve d'éducation physique au baccalauréat, ensuite les instructions officielles de 1967 qui ont aussi transformé le terme éducation physique en éducation physique et sportive. Et pour autant, ce phénomène de sportivisation a entraîné tout un courant de didactisation de la discipline. Et donc, par rapport à l'exemple que vous donnez, certes, il peut y avoir des confusions au niveau du langage, mais ça ne remet pas en cause tout le travail au quotidien qui est fait par les enseignants d'EPS, qui rendent explicites tous les apprentissages moteurs, méthodologiques, sociaux, qui sont développés dans le cadre de l'éducation physique et sportive, pour justement bien asseoir cette position scolaire de la discipline et sa participation aux finalités plus larges, les finalités éducatives.
Et en même temps, l'éducation physique et sportive, elle est souvent intrinsèquement liée au sport, à la pratique sportive, pardon, évidemment, d'une manière ou d'une autre. Vous, c'est par passion du sport que vous êtes entré en STAPS. Et quelle place prend la pratique sportive dans la formation en fait, des enseignants en EPS ?
Alors oui, je suis rentré dans cette filière STAPS par passion de la pratique sportive, mais aussi par une passion de la transmission. Donc, j'étais entraîneur de basket pour les jeunes catégories, donc ça m'a donné envie de voir comment on pouvait faire progresser de manière plus accentuée des enfants, des adolescents, des élèves. Et donc, cette pratique sportive, elle est quand même très présente en STAPS. Donc, les étudiants en STAPS ont des heures consacrées à la pratique physique. Donc, par exemple, sur une 3 années de licence, ça peut représenter plus de 200 heures dans leur volume d'enseignement et de formation. Et pour autant, depuis quelques années maintenant, il y a aussi tout un travail au niveau scientifique qui est fait sur l'aménagement de la pratique sportive pour la rendre plus professionnalisante pour les étudiants. Donc, de manière plus simple, comment on peut aménager cette pratique pour qu'elle puisse être liée aux cours qui sont relatifs à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Donc, comment on peut s'en servir comme un support pour mieux ensuite enseigner l'éducation physique et sportive. Et c'est là où les étudiants sont aussi sollicités pour bien assimiler et comprendre la différence entre la pratique sportive extrascolaire et l'enseignement d'éducation physique et sportive.
Et oui, apprendre à pratiquer, c'est pas la même chose qu'apprendre à enseigner. Claire, dans l'EduRevue, vous revenez justement sur la licence STAPS et sur le profil et les dispositions des étudiants et étudiantes dans cette filière, de la vocation qui pousse à choisir cette licence aux caractéristiques sociologiques des étudiants. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Cette filière STAPS, Elle a aussi, ces dernières années, un peu cristallisé tout le basculement qui a eu lieu depuis 5-6 ans autour notamment de la plateforme Parcoursup, parce qu'à l'époque, c'était la filière en tension avec le fameux tirage au sort dans les années 2016, 17, 18. Et dans les missions en fait, de l'enseignant d'EPS, c'est aussi explicite, en fait, notamment au niveau lycée, cet accompagnement à l'orientation, aux perspectives aussi que ce secteur maintenant installé dans la vie économique aussi, finalement, de différents territoires peut jouer. Donc ça m'a donné envie d'aller un petit peu approfondir cette question. Et en effet, cette licence STAPS, qui auparavant était finalement la filière depuis ces années 70-80 de formation au professorat de l'EPS, elle s'est diversifiée. Et maintenant, en fait, il y a 5 parcours pour justement montrer que on peut bien sûr devenir enseignant d'EPS, et il faut même avoir soit une équivalence, soit une licence STAPS pour enseigner l'EPS au collège ou au lycée. Mais voilà, qu'il y a d'autres débouchés, plus vers l'entraînement, plus vers la pratique adaptée, plus vers le management et plus aujourd'hui vers aussi l'ergonomie. Donc, une filière en fait complexe aussi au niveau des enseignements, parce que en complément de la pratique sportive, il y a aussi beaucoup d'enseignements relatifs aux sciences humaines et sociales et relatifs aux sciences du vivant. Et du coup, ça donne finalement des études exigeantes pour lesquelles le capital scolaire, comme on dit en sociologie de l'éducation, compte finalement beaucoup. Et dans lesquelles, en fait, une orientation, comme vous l'avez dit, fondée un petit peu sur cette idée de la vocation ou de l'excellence dans la pratique sportive, va se heurter finalement aux réalités de la vie étudiante dans cette filière. Et donc, c'est encore aujourd'hui une des filières dans lesquelles les enseignants-chercheurs se mobilisent aussi pour rendre un petit peu plus transparente ou en tout cas compréhensible les exigences de cette filière pour les très nombreux étudiants et étudiantes qui maintenant la fréquentent.
Qui s'orientent là-dedans, oui. Alors, la construction en tant que discipline scolaire de l'éducation physique et sportive, elle est donc pas sans lien, on l'a vu là, avec la culture sportive et sa transmission, mais elle va aussi intégrer des enjeux de santé. Il faut promouvoir une activité physique, prendre en charge une éducation à la santé en milieu scolaire sous des angles physiques, physiologiques et socio-environnementaux. Je vous propose qu'on écoute un court extrait d'un JT de France 2 en 2003 dans un collège en Alsace.
Ce dispositif s'inscrit dans le cadre d'une étude menée par l'Institut Pasteur de Strasbourg. 1000 collégiens du Bas-Rhin ont été tirés au sort. Pour la moitié d'entre eux, l'activité physique ne change pas. Les 500 autres collégiens, dont ceux-ci, sont encouragés à faire du sport. Un an après sa mise en place, l'étude livre ses premiers résultats.
Nous avons montré, et ça c'est assez original chez l'enfant, ça n'avait pas été montré dans la population générale, que l'activité physique a un effet favorable sur la pression artérielle, sur le cholestérol, mais également sur l'insuline par exemple, qui prédit un peu le risque de diabète à l'âge adulte, et ce, quel que soit le poids de l'enfant.
40% des adolescents ne font aucune activité physique hors de l'école. Cela explique en partie que 15% d'une classe d'âge soit en excès de poids. Il y a donc urgence à infléchir le comportement des adolescents. Ici, l'action porte déjà ses fruits.
L'année dernière, quand j'ai commencé l'étude, je ne faisais pas de sport. Cette année, je me suis inscrit dans un club de basket. Et bon, ça va beaucoup mieux, je me sens mieux.
L'étude scientifique doit durer 4 ans. Une période suffisante pour voir l'évolution physique, les changements de comportement de ces adolescents et en tirer un maximum d'enseignements.
Alors, dans cet extrait, on entend les bénéfices pour la pression artérielle, on parle d'obésité, on parle de pratiques sportives et donc encourager les jeunes à avoir plus de pratiques sportives. Claire, dans l'Edurevue, vous expliquez que cet enjeu de santé dans l'éducation physique et sportive, il est à entendre au sens large, c'est-à-dire que la notion de santé, elle englobe aussi une notion de bien-être, les caractéristiques propres à chaque élève. C'est quoi les enjeux liés à la santé pour l'EPS?
Ce que j'ai pu lire dans des articles ou des publications récentes, puisque c'est aussi un peu notre fond de faire de la veille aussi pour pouvoir analyser, il y a 20 ans finalement, ces préoccupations sanitaires, ces préoccupations de santé publique, qui croisent justement aussi des politiques scolaires et des politiques sportives, elles sont déjà en germe, dans tout ce qui a été dit, là, le lien avec l'Institut Pasteur, etc. Et c'est ce vocabulaire aussi, on se croirait dans un rendez-vous chez le médecin, des fois, quand on écoute cet entretien. Tout ça, ça irrigue depuis plusieurs décennies maintenant, en fait, les politiques scolaires de façon générale. Et ce qu'on appelle l'éducation à la santé ou des écoles aussi promotrices de santé, santé, c'est une des fonctions, une des visées qui sont reconnues aussi à la discipline dans ses finalités quand vous prenez les programmes. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie aussi de l'identité disciplinaire avec d'autres disciplines aussi. Tout ça dans un cadre, en effet, où se mêlent maintenant de façon multipartenariale, c'est-à-dire avec des acteurs institutionnels à différents niveaux, au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional, qui essayent de faire travailler ensemble le milieu scolaire. Là, dans l'extrait, on entendait le club de basket, je crois, de l'élève. Donc, ce jeune, il a aussi, finalement, avec cette expérimentation, eu des liens avec le milieu associatif et sportif qu'il n'aurait pas eu avant. Et dans tout ça, on a l'INSERM ou l'Institut Pasteur, je ne sais plus. Donc, voilà, des acteurs vraiment forts, cette fois, de la recherche dans le milieu médical, au milieu de la santé. Donc, on voit bien qu'autour du monde santé, comme vous l'avez dit, il y a des enjeux qui sont pluridimensionnels, mais du coup, derrière, il y a une action publique vraiment transsectorielle qui amène notamment les acteurs du sport scolaire à travailler avec un grand nombre d'autres acteurs, dont les agences régionales de santé, peut-être à l'heure actuelle.
Laurent Dastuc, ça vous fait réagir, vous, cet extrait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment est-ce que ces objectifs en termes de santé vont être pris en compte dans la formation initiale des enseignants en EPS ?
Alors, dans la formation initiale des enseignants d'EPS, les étudiants ont des apports théoriques sur l'acquisition et le développement d'une santé aussi bien physique, mentale que sociale. Donc, ils ont des cours en sciences du vivant, sciences humaines et sociales, comme a pu le rappeler Claire. Mais également, de plus en plus, lorsqu'ils se dirigent vers le métier de professeur d'EPS, il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place pour justement acquérir des gestes professionnels qui vont favoriser cela. Donc, sans rentrer dans le détail de ces dispositifs, l'idée, c'est de pouvoir faire acquérir aux étudiants des gestes professionnels qui leur permettent de développer chez les élèves une santé à court terme, c'est-à-dire, par exemple, améliorer la condition physique des élèves, mais également donner, lors des cours d'EPS, le goût de la pratique physique pour que les élèves aient envie d'investir peut-être d'autres espaces de pratique extrascolaire, peut-être avec leur famille, leurs amis, mais également ces étudiants, on leur apprend aussi à mettre en place des cours de PS qui permettent aux élèves d'apprendre à acquérir et aussi à entretenir leur santé. Donc voilà tous les éléments qui peuvent être mis en place dans la formation initiale.
Et alors le 11 février dernier, c'était les 20 ans de la loi handicap pour l'égalité du droit et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. En EPS, justement, autour de la question d'autonomie, comment est-ce qu'on travaille pour l'inclusion des élèves en situation de handicap ?
Alors, comment on travaille ? Tout d'abord, dans des collèges, par exemple, il y a ce qu'on appelle les classes ULIS, les classes unités localisées d'inclusion scolaire, où on a des élèves qui peuvent souffrir de quelques déficiences qui sont intégrées durant les cours de PS. Donc, on peut travailler dans le cadre du cours de PS, mais aussi dans le cadre de l'association sportive. Donc, pour vous donner un exemple, lorsque j'étais enseignant de PS dans l'académie de Créteil, on avait fait le choix au niveau de l'équipe pédagogique EPS de pouvoir proposer des activités à l'association sportive qui serait favorable pour l'inclusion de ces élèves du dispositif ULIS. Donc, par exemple, pas mal d'élèves participaient à l'activité danse. On avait choisi cette activité avec les autres collègues d'EPS parce qu'on trouvait déjà qu'elle permettait un développement moteur, qu'elle permettait aussi aux élèves ULIS de pouvoir être force de proposition dans les gestes à proposer, les mouvements à proposer, c'est-à-dire être force de proposition dans la construction d'une chorégraphie. Et puis, en danse, les élèves sont amenés à construire des chorégraphies et donc, quelque part, vivent une aventure collective. Et donc, dans une aventure collective, chacun doit s'assumer, faire des propositions, mais aussi écouter les avis des autres. Donc, on trouvait que c'était une activité qui se prêtait justement à cette inclusion. Et au-delà de ça, l'activité danse, la danse est destinée à être montrée, à être présentée. Et donc, il y avait aussi tout un travail sur l'image du corps, donc pour tous les élèves, mais encore plus pour les élèves ULIS, de pouvoir s'assumer également devant les autres. Donc là, en quelques mots, j'essaie de vous montrer tous les enjeux qui peuvent résider autour d'une activité. J'ai pris l'exemple de la danse, qui peuvent permettre de favoriser l'inclusion des élèves qui vont apprendre de se développer au final au sein d'une même classe d'âge, au sein d'un groupe de même âge et de même niveau que.
Ce qui est très intéressant ici, je trouve, c'est que on voit qu'une spécificité de l'EPS, donc cette possibilité notamment de passer par un apprentissage, notamment par le corps, ça vient au service ici de l'inclusion de ces élèves en ULIS. Claire, dans votre dossier, vous parlez de plusieurs spécificités en fait de l'EPS en tant que discipline et notamment du rapport à l'espace pour les enseignants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
L'idée, en fait, ce qui fait pour les élèves, pour les collègues aussi enseignants, la différence de l'EPS, c'est que on n'est pas entre quatre murs, alors que dans les autres enseignements, cette idée de la forme scolaire, donc de l'unité un peu de temps, d'espace, de cette relation pédagogique fondée, comme l'a dit Madame Beretti dans la chronique précédemment, sur cette relation un peu d'autorité pour faire apprendre, pour faire grandir grâce à des apprentissages scolaires un peu codifiés et surtout marqués par une sculpture de l'écrit, par le poids de l'écrit dans de l'histoire géo au français, etc. On a d'autres règles du jeu. Et donc ce rapport à l'espace, il permet justement de développer, de nourrir, de consolider d'autres apprentissages, donc ces apprentissages moteurs aussi par le corps. Pour les enseignants, c'est aussi un autre rapport, je dirais, au territoire. C'est-à-dire qu'on franchit aussi les murs, non seulement de la salle de classe, mais parfois aussi du collège, de l'école. On va à la piscine, on va au gymnase, on fait parfois aussi une classe de mer, une classe de découverte. Pour les enseignants, c'est vraiment, peut-être Laurent pourra confirmer, mais pour des enseignants novices ou débutants, apprendre à gérer ces contraintes spatiales et les transformer finalement en ressources pour agir et pour faire apprendre, c'est pas si facile que ça, quoi. De prendre du temps pour monter des panneaux envolés, aidez-moi, des filets ou trouver sa place pour pouvoir superviser des courses de demi-fond alors que le stade il est gigantesque, ou comment coordonner son travail avec un maître nageur sauveteur et un parent accompagnateur quand on est à la piscine où on a du mal à tout simplement à s'entendre et à voir aussi les gestes du nageur ou de la nageuse débutante. Voilà, ça crée des contraintes aussi spécifiques à l'exercice du métier, des contraintes aussi physiques, parce qu'il y a l'idée de la démonstration, de pouvoir aussi, les élèves attendent aussi, dans cette forme d'autorité, que le prof parfois sache faire le geste quand même qu'il faut pouvoir faire ensuite, qu'il faut apprendre. Et donc du coup, une dimension vraiment d'ouverture, et en même temps, une dimension, une contrainte, ou en tout cas une attention particulière, qui est aussi peut-être un objet de formation initiale ou continue d'ailleurs.
Finalement, ce qui apparaît tout au long de notre discussion, là, c'est la manière dont l'EPS se constitue en tant que discipline scolaire. Peut-être que pour conclure, Laurent Dastuc, si on parle de socle commun, donc de connaissances, de compétences, de culture auxquelles contribue l'ensemble des enseignements dispensés à l'école, comment est-ce que l'EPS s'inscrit dans ce socle commun concrètement? Comment elle trouve sa place en tant que discipline scolaire?
Alors, comme vous venez de le dire, l'éducation physique et sportive est une discipline scolaire, et donc elle participe au même titre que les autres disciplines à l'acquisition des compétences qui sont données dans le socle commun. Et donc, en EPS, on va travailler sur des compétences générales qui sont tout simplement les traductions, la traduction des domaines du socle. Donc, pour vous donner une idée, le premier domaine du socle est relatif au langage. En EPS, on va développer un langage du corps, donc c'est-à-dire développer à la fois une motricité, mais aussi on va apprendre à utiliser son corps pour apprendre à s'exprimer. Par exemple, un autre domaine, c'est celui qui est relatif, le domaine numéro 2, à l'acquisition de méthodes et d'outils. Et donc en EPS, c'est par le biais de la pratique physique que les élèves vont apprendre des méthodes et des outils pour se développer. Donc au final, l'EPS, c'est en adéquation avec les enjeux scolaires, avec les finalités scolaires. La spécificité de cette discipline, donc on en a parlé tout au long de cette émission, c'est qu'en fait, ces apprentissages vont se faire par un engagement du corps. C'est ça, à un moment donné, qui fait cette spécificité et qui, en même temps, je pense, est une richesse pour les élèves parce que cette spécificité permet d'envisager un autre type d'apprentissage également.
Eh bien, merci beaucoup Claire Ravez et Laurent Dastuc d'avoir accepté notre invitation. Grâce à vous, on en sait désormais plus sur l'éducation physique et sportive et la place qu'elle occupe dans le cadre scolaire. Nous vous mettrons, si vous souhaitez approfondir le sujet, le lien vers l'Edurevue, l'EPS, de ses buts, etc. et d'autres références en description de l'épisode. Avant de terminer cet épisode d'IF et quoi, c'est l'heure de la chronique EAC, éducation aux arts et à la culture, avec Sébastien Boudin. Bonjour Sébastien.
Bonjour Maë et bonjour à tous.
Alors 20 ans, cela se fête. Sébastien, vous nous emmenez à Évreux, où le Festival international du film d'éducation a célébré sa 20e édition du 3 au 7 décembre dernier.
Oui, le festival a été créé en 2004. On dit FIFE pour les initiés. Il poursuit l'ambition de faire découvrir à tous les publics des films exigeants, avec une sélection de 90 films regroupant des longs et des courts-métrages, des documentaires et des films d'animation venus des 5 continents. Il y a 2 décennies, la création de ce festival a été organisée conjointement par le Centre départemental de documentation de l'Eure, le CRDP de Haute-Normandie, et avec le partenariat de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les CMEA. J'ai demandé à Christian Gautelier, directeur du festival, qu'est-ce qu'un film d'éducation ?
C'est des histoires donc, qui mettent en scène donc, des personnages qui peuvent être donc, des enfants, des adultes, dans des situations de transmission, de relations intergénérationnelles. C'est aussi des films qui abordent des grands enjeux sociétaux, donc la non-exclusion, les questions d'égalité de droit, de l'avenir de la planète, la question aussi des regards culturels qui peuvent être différents. Voilà, les non-discriminations, l'égalité homme-femme. Donc en fait, au niveau du festival, quand on regarde effectivement 20 ans de filmographie, finalement, les films qui ont été sélectionnés témoignent un petit peu au niveau européen, mais aussi au niveau international de ces grands sujets dont se sont saisis des réalisatrices et des réalisateurs.
Le festival propose une programmation de films dédiée aux élèves du primaire et du collège avec des séances en salle. Comme les élèves du lycée Senghor d'Evreux, les jeunes ne sont pas seulement spectateurs, mais ils sont aussi des acteurs.
Ils peuvent être membres d'un jury, ils peuvent être donc reporters, ils peuvent être aussi jeunes critiques, hein, puisqu'on a un parcours jeune critique de cinéma. Et donc effectivement, ils peuvent être intervieweurs, blogueurs. Alors là, on travaille avec une dizaine de lycées de la région Normandie. Le lycée Senghor que vous avez cité, ben oui, parce que en fait, il est à Évreux. Et en fait, il y a des options cinéma, donc en seconde, première, terminale. Et depuis l'origine du festival, donc depuis 20 ans, en fait, on propose à l'équipe éducative d'utiliser le festival comme un lieu réel qui met les jeunes en situation de production avec les contraintes de temps, les contraintes techniques, les contraintes aussi de la venue sur des temps assez précis des réalisateurs. Donc, ils sont en charge en fait de toutes les interviews de nos invités, réalisateurs, réalisatrices, intervenant dans les conférences et les tables rondes. Et c'est couplé avec une équipe de web reporters qui anime aussi. Donc, c'est des lycéens, des émissions de web TV. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une orientation forte de mettre les jeunes au sein du festival de manière très, très active, interactive. Voilà.
Vous pourrez retrouver toutes ces productions sur le blog du festival. Le FIFE reste dans la tradition du cinéma itinérant et depuis 17 ans, le festival est aussi hors les murs.
Comme il est porté par... Les CMEA sont une association nationale donc qui est présente sur tous les territoires hexagones et ultramarins. Bon, le partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse est aussi... présente un peu sur tous les territoires. Donc, en fait, on a construit avec nos équipes des rebonds du festival. Donc, ils se sont construits au fur et à mesure. Soit elles organisent des temps forts, des petits festivals, c'est-à-dire pendant 2-3 jours dans un cinéma qui mobilise les écoles, éventuellement des EHPAD, voilà, avec une programmation donc il faut reconstruire. Soit on peut avoir des séances du cinéma plus en itinérance, puisqu'on va se déplacer en milieu rural, par exemple. Et des séances qui peuvent être liées à un thème, c'est-à-dire qu'une association locale souhaite aborder un enjeu sociétal ou citoyen. Donc à ce moment-là, nous, on est partenaire de ce type de manifestation. Et puis pour les jeunes enfants, pour les petits, là aussi, chaque année, depuis une dizaine d'années, on soutient 5 films dont on mutualise en fait des droits médiathèques qui permettent d'être libéré de tous ses droits et que ces films puissent être diffusés dans des écoles, des centres de loisirs, dans des structures qui accueillent des enfants. Donc, comme c'est depuis une dizaine d'années et qu'on le fait avec 5 à 8 films chaque année, ben, vous voyez, on a une médiathèque, une filmothèque très, très importante qui est disponible, qu'on peut proposer. Et ça, c'est un point d'appui pour toutes ces éditions décentralisées dans des villages, dans des villes, dans des établissements, dans des EHPAD, voilà, des hôpitaux, des prisons, dans différents lieux.
Christian Gautelier estime avoir atteint les 600 000 spectateurs en 20 ans de festival à Évreux. Le FIFE a essaimé dans d'autres lieux, avec une trentaine d'éditions hors les murs. Il y a 20 ans, c'est Jean-Paul Cailleux, avec l'aide de Christian Gautelier, qui a imaginé ce festival, et cette chronique lui rend hommage.
Merci Sébastien. Nous mettrons toutes les références du Festival international du film d'éducation sur notre site web. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. Merci à Sébastien Boudin en régie. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre thématique du jour et sur les chroniques de l'émission sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr/cadécole. À très vite.